Le 23 juillet 1945 s'ouvrait le procès du maréchal Philippe Pétain, à Paris. Un homme politique français et militaire qui est né en 1856 et mort en 1951. Il est le héros de Verdun et de la Première Guerre mondiale, et le chef de l'État lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais très vite, il va déchanter et passer d'un héros national à l'anti-héros. L'intérêt particulier de ce procès, c'est que pour une fois dans l'histoire de France, va être jugé un chef d'État ancien militaire. Ce procès va avoir lieu à Paris au palais de justice, mais c'est la haute cour de justice qui va juger le maréchal Pétain. Alors qu'est-ce qu'est la haute cour de justice? Elle a été créée le 18 novembre 1944. Les magistrats présents dans cette juridiction d'exception sont des gens qui ont été nommés la plupart par le général Charles de Gaulle. Il y a un jury constitué de 24 personnes qui ont été piochées dans 12 parlementaires avec 4 suppléants et 12 non-parlementaires issus de la résistance avec 4 suppléants également. C'est une juridiction très politisée, on le voit dans sa formation et même dans les sujets qu'elle va traiter. Le maréchal Pétain était jugé pour complot contre l'État et intelligence avec l'ennemi. Comme dit précédemment, c'est la première fois qu'un chef d'État était jugé pour trahison. Le contexte était marqué par la construction d'un nouvel ordre juridique fondé sur le crime contre l'humanité. Et les accusations profitent pour souligner les lois raciales et la participation active de la police de Vichy dans la déportation des Juifs en France. Environ 76 000 Juifs français ont été déportés sans parler du statut des Juifs qui a été mis en place à ce moment-là, notamment concernant les métiers mais aussi l'obligation de porter l'étoile jaune. Ce procès était très médiatisé à l'époque. Pourtant, il est aujourd'hui un peu oublié dans la mémoire collective, malgré son caractère hors norme. Le 14 août 1945 se déroule la plaidoirie de Jacques Isorni, le plus jeune des trois avocats du maréchal, qui se charge des questions les plus dérangeantes sur la persécution et la répression. La défense se focalise donc sur le fait que Pétain avait agi dans l'intérêt supérieur de la France, en cherchant à restaurer l'ordre, à éviter l'anarchie et à préserver le territoire national. Isorni a soutenu que Pétain avait coopéré avec l'occupant nazi de manière pragmatique afin de minimiser les souffrances du peuple français, d'éviter les répressions massives et de négocier des avantages pour la population. Isorni a insisté sur le fait que Philippe Pétain avait été soumis à une forte influence et contrainte de la part de l'occupant nazi, notamment en ce qui concerne la prise de décision sous le régime de Vichy. Il a tenté de dépeindre Pétain comme un homme limité dans ses actions par des pressions extérieures. Aussi, pendant le procès, plusieurs hommes politiques sont appelés à la barre, comme Léon Blum ou Pierre Laval. Pierre Laval va insister sur le fait que lors de la rencontre avec Hitler, le 24 octobre 1940, Pétain n'y a pas été emmené de force et s'y est rendu sans répugnance. Tout ça va peser sur l'accusation pour alimenter son image de traite à la patrie. Après 3 semaines d'audience, sous haute tension, le 15 août 1945 a lieu la délibération. Il est alors environ 4h du matin et la cour condamne Pétain à la peine de mort et à la confiscation de ses biens et devient alors le seul chef d'État à avoir été reconnu coupable d'indignité nationale. Cependant, le général de Gaulle commua cette peine en emprisonnant à perpétuité. Certains ont vu cela comme un acte de clémence, tandis que d'autres ont considéré que la justice n'avait pas été suffisamment sévère. On peut être certain que si Pétain avait été exécuté, cela aurait marqué l'histoire de la France d'une manière complètement différente. Plus que le procès lui-même, c'est la figure de Pétain qui concentre l'attention et marque la mémoire collective. La figure de Pétain était complexe. D'un côté, il était encore l'officier le plus célèbre de France grâce à la propagande déployée par le régime de Vichy. De l'autre côté, il était également le plus détesté car il avait collaboré avec l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Français avaient des sentiments ambivalents envers lui, oscillant entre l'admiration pour son rôle lors de la Première Guerre mondiale et répulsion pour sa collaboration. Finalement, malgré la faible marque qu'il a laissée dans l'esprit des Français, le procès a eu une importance fondamentale, puisqu'il a permis de revisiter et de réévaluer l'histoire officielle de la période de Vichy. Il a mis en lumière des actes de collaboration et a contribué à démystifier l'image du maréchal Pétain en tant que sauveur de la nation. Il a influencé la mémoire collective en France concernant la Seconde Guerre mondiale et la période du régime de Vichy. Il a donc joué un rôle dans la construction d'une mémoire historique qui rejette la collaboration et valorise la résistance et marque un tournant dans la justice française qui, pour la première fois, juge un chef d'État pour indignité nationale.